en série.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez rire, c'est Jean-Sébastien Laliberté à la console qui me fait des petites blagues. Vous écoutez Marianne Paquette, expert en série pour les 30 prochaines minutes sur Canal M. Il me dit qu'il va fermer mon micro au cours de l'émission. Il fait son trouble de l'opposition. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Peut-être que ça va vous interpeller si vous êtes grand-parent ou parent d'enfant. D'ailleurs, si vous l'êtes, vous devez savoir que ça arrive que vos enfants sont pas tout à fait en accord avec votre autorité, vont tenter de la défier. Ça arrive quelquefois. Nous-mêmes, adultes, on peut se rappeler, c'est à peu près certain qu'on a fait ça enfant. C'est sûr que les parents sont toujours un petit peu surpris. Ça reste des comportements inhabituels. Ils s'attendent à ce que les consignes, les règlements de la maison soient respectés, puis ça ne l'est pas. Souvent, on va entendre « moi, j'aurais jamais répondu comme ça à mes parents quand j'étais enfant. » Et puis bon, ça les déstabilise un petit peu. Ça peut avoir quelque chose de bien de se rebeller un peu parfois contre l'autorité de ses parents. Par contre, quand ça demeure un comportement qui est récurrent, que ça affecte le quotidien de l'enfant, que ça a aussi une répercussion négative sur la famille, les parents, mais aussi frères, sœurs, et que l'enfant est toujours en conflit avec les figures d'autorité, c'est-à-dire les adultes qui l'entourent, que ce soit, comme je le mentionnais, grands-parents, mais aussi à la garderie, les enseignants à l'école. Ben, peut-être qu'il y en a, comme mon metteur en onde, un trouble de l'opposition. Bien sûr, je le taquine. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec le docteur Benoît Amaringer. Je l'ai-tu dit comme il faut?
Amaringer.
Là, ça se peut que vous ayez souvent me reprendre. C'est pas parce que je m'oppose à vous, c'est parce que c'est un nom de famille qui est quand même un petit peu plus méconnu.
Tout à fait.
Donc, vous êtes neuropsychologue, directeur de la clinique d'évaluation et réadaptation cognitive. C'est vous-même qui l'avez fondée.
Oui, tout à fait. Il y a une dizaine d'années, on a fondé une première clinique à Laval, puis là, on a une deuxième clinique à Montréal maintenant.
Ça fait beaucoup de monde qui travaille avec vous. Vous vous spécialisez dans quel type de service, d'approche de clientèle?
On est spécialisé auprès des enfants qui présentent soit des troubles d'apprentissage ou des troubles de comportement. Alors, on parle ici, par exemple, troubles d'apprentissage, la dyslexie, dysorthographie, les difficultés scolaires, troubles de comportement, on peut parler du déficit d'attention, le syndrome de Tourette et évidemment, là, notre sujet d'aujourd'hui, le trouble d'opposition avec provocation.
Est-ce que j'avais raison ou tort en introduction de dire que ça peut être sain de s'opposer parfois à l'autorité de nos parents?
C'est tout à fait sain et on en veut de ces phases-là d'opposition. Il y en a deux qui sont normales dans le développement de l'enfant. On en a une première là, vers 2-3 ans, le terrible two. Mm-hmm. Donc cette phase-là qui survient à ce moment-là en premier lieu pour donner, si on veut, de l'autonomie à l'enfant. L'enfant, c'est la période où ce qu'il va vouloir faire par lui-même. Hein? C'est la période où il veut boutonner ses chandails par lui-même, attacher ses souliers par lui-même. C'est « non, non, je vais le faire hein? ». L'enfant qui veut le faire lui-même, alors il prend de l'autonomie à ce moment-là, l'enfant. Et l'opposition, ben c'est un peu ça que ça joue comme rôle pour cet enfant-là. C'est-à-dire de dire « je ne suis pas ce que le parent nécessairement me demande et je le fais par moi-même. Mm-hmm. » C'est sain, c'est ce qu'on veut chez les enfants. On a une deuxième phase qui se rejoue ensuite vers l'adolescence.
On la connaît, celle-là.
Et c'est normal et c'est encore une fois sain d'avoir de l'opposition à cet âge-là. L'adolescence est une période de transition entre être un enfant et être un adulte. Quand on est un enfant, ben on est dépendant de nos parents. Quand on est un adulte, on est complètement indépendant. Alors, il y a comme cette transition qui doit se jouer pendant l'adolescence où graduellement, l'adolescent doit prendre ses distances, s'opposer, prendre son individualité face aux parents. Et là, ben, c'est tout à fait normal d'avoir de l'opposition. Puis on en veut, mais on veut la gérer, l'encadrer, en avoir un niveau qui est correct et sain. Mmh.
Si je reviens à l'enfant, donc Terrible 2, ça dure combien de temps, ça?
Ouais, on dit 2-3 ans. En fait, l'âge de 2 et 3 ans.
Ouais. Donc, mais ça ne dure pas 2-3 ans.
Non, ça ne dure pas 2-3 ans. Ça devrait s'apaiser vers les 4 ans. Chez certains, ça dure encore un petit peu. C'est encore normal quand vers l'âge de 4 ans, il y en a encore un petit peu.
En fait, je m'intéresse à savoir à quel moment ça n'est plus, entre guillemets, bien sûr, normal.
Normal. Ouais, ben il y a du cas par cas dans ça, mais je vous dirais là vers 4-5 ans, quand ça perdure, quand c'est très difficile, quand ça empoisonne le milieu familial et que c'est très, très dur pour les parents, qu'on n'arrive comme plus à appliquer notre autorité depuis là, les 2 ans de l'enfant, là, ça commence à être plus difficile, à être long et ça mérite consultation à ce moment-là.
C'est quoi un trouble de l'opposition?
Donc, un trouble d'opposition, c'est comme, si on veut, un mode d'interaction qui est inscrit chez l'enfant. C'est sa façon d'entrer en interaction avec l'adulte et l'autorité. La plupart des enfants vont chercher à plaire. à l'adulte.
Ouais.
L'enfant qui est en situation de trouble d'opposition va plutôt chercher à s'opposer à l'adulte. Alors, face à un petit peu n'importe quelle situation, n'importe quel contexte, n'importe quelle demande, la première réaction de l'enfant est celle d'opposition. Alors, quand on dit opposition, ben, c'est qu'il refuse les demandes, refuse les consignes, va être facilement colérique, irritable, va réagir fortement là, au nom des parents, un petit peu tout ça. Donc, c'est un mode d'interaction là, très opposant de l'enfant.
Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, contrairement à la majorité des enfants qui veulent plaire à leurs parents, est vraiment dans l'autre voie opposée?
Il y a plusieurs causes qui peuvent être possibles à ça, qui peuvent être possibles. On peut penser d'abord, chez certains enfants, c'est neurobiologique. Ça semble être présent là, de la naissance et inscrit chez eux. Ça, c'est des parents qui vont dire il était difficile là, dans les premiers mois. Plus de crises, c'était
oui.
plus...
C'est pas le bon pyjama.
Oui, un petit peu tout ça. Là, dès la naissance, ou même l'allaitement était difficile, dormir était difficile dans les premiers mois. Et ça semble être, à ce moment-là, presque inscrit là, neurobiologiquement chez l'enfant. Puis souvent, ça s'inscrit dans d'autres choses, comme un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors, des jeunes qui semblent manquer de filtre dans leur réaction émotive. Hein. Quand on a l'impulsivité, l'hyperactivité, ben, c'est un peu ça. C'est quand l'émotion monte, l'enfant n'arrive pas à la filtrer, la garder à l'intérieur, donc il explose à ce moment-là. Ça peut s'inscrire aussi dans d'autres choses comme un syndrome de Tourette ou un syndrome autistique. Donc, qui sont des choses plus neurobiologiques, mais plus graves aussi. Là. Dans certains cas, donc comme ça, c'est biologique de la naissance. Dans certains autres cas, c'est plutôt, je vous dirais, familial ou appris. On est dans une situation où les phases normales sont moins bien gérées ou sont semblent perdurer. Et puis, suite à ça, ben, l'enfant maintient son opposition. Souvent, c'est parce qu'il a réalisé que l'opposition était payante pour une raison ou une autre. Alors il la maintient et ça perdure et ça ne se solutionne pas. C'est souvent dans ces cas-là, là, c'est suite aux phases normales.
Est-ce que dans les deux cas, le trouble de l'opposition se détecte autour de 4-5 ans?
Principalement, oui, parce qu'avant ça, on va toujours attendre la phase normale d'opposition de 2-3 ans, donc on ne diagnostiquera jamais un trouble d'opposition avant ça. Donc vers 4-5 ans, effectivement, 6 ans, ça pourrait être les premiers temps pour diagnostiquer un trouble de l'opposition.
Je lisais, Benoît, que ça touche 5,7 % des enfants. C'est un bon chiffre, ça?
Oui, c'est un bon chiffre, environ.
Pourquoi plus les garçons que les filles?
Pourquoi plus les garçons? C'est une bonne question. C'est vrai aussi pour certaines choses, comme le trouble de déficit d'attention, les troubles d'apprentissage scolaire. Ça semble être plus les garçons qui sont affectés par ça. La meilleure explication de ça serait une explication peut-être génétique dans ces cas-là, qui affecterait plus les garçons que les filles.
Est-ce que le trouble de l'opposition en soi est génétique? C'est-à-dire, si on l'observe chez le frère et la sœur ou si le papa, la maman là, en a développé un, on va plus avoir de chances de le retrouver chez l'enfant?
Dans les cas qui sont neurobiologiques, comme on le disait tantôt, présents de la naissance, ça serait probablement génétique. Mm-hmm. Dans les cas qui sont plutôt appris et familiaux, donc là, on serait plus dans du comportemental.
On a parlé un peu de à quoi ça peut ressembler, mais si on tente d'y aller de façon encore plus concrète dans vraiment les types de comportements, on va avoir des crises, j'imagine, un non à toute demande de la part des parents.
Oui, un peu ça, effectivement. C'est des parents qui semblent, à ce moment-là, qui disent qu'ils ont plus d'emprise sur l'enfant, hein, qui n'arrivent plus à mettre une autorité, des conséquences... que l'enfant va respecter. Alors, un petit peu aux situations qui déplaisent à l'enfant. Là, quand le parent refuse quelque chose à l'enfant, alors là, on a une réaction de crise, on a une réaction de pleurs. Quand l'enfant veut faire quelque chose et puis que c'est pas le temps, on va avoir encore là des réactions de l'enfant. Et puis les parents n'arrivent pas à contrôler ça dans ces situations-là.
Mm-hmm. J'imagine aussi que ça devient problématique une fois que l'enfant fait son arrivée en garderie ou à l'école.
Oui, bien là, c'est à savoir si notre trouble d'opposition se généralise en dehors du milieu familial. Chez certains enfants, ça va se limiter à l'interaction avec les parents.
Ah oui.
Et là, à l'école, ça va bien aller. Chez certains autres enfants, et là, c'est plus problématique quand ça se généralise à plus d'un milieu, là, quand c'est présent à la maison, mais aussi à l'école, ou mais aussi à la garderie, face à d'autres formes d'autorité et d'adultes. Alors, là, on est vraiment plus dans un trouble là, qui est plus généralisé face à l'autorité.
Comment on peut expliquer ça, que ça se passe qu'à la maison, dans le nid familial et non pas dans les autres sphères?
Ben là, il faut réagir ou réfléchir à l'interaction qui se passe et comment gérer justement l'opposition à la maison. Puis les parents, hein, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est on n'a pas de mode d'emploi pour élever un enfant.
Non. Puis il n'y a pas de test non plus, il n'y a pas de cours.
Non, c'est ça, effectivement. Alors, les parents essaient de leur mieux, font les meilleurs coups qu'ils peuvent, mais de temps en temps, sans même le réaliser, des fois, vont entretenir l'opposition de l'enfant. Alors, bon, des cas qui sont plus évidents, on a l'enfant, par exemple, qui va faire une crise au centre d'achat pour avoir un jouet ou des bonbons, et puis là, le parent, pour éviter la crise, va faire « OK, je te le donne, on le prend ». C'est sûr qu'à ce moment-là, la crise a été payante et l'enfant a appris que s'il se fait dire non et qu'il fait une crise, il y a des chances d'avoir un oui. Et même si ça survient juste une fois de temps en temps, ça peut valoir la peine pour l'enfant de faire une crise pour avoir un oui. On a différentes situations comme ça. Des fois, en fait, c'est simplement qu'avec tout le travail que les parents ont à faire, hein, on a deux parents qui travaillent, par exemple, avec deux enfants à la maison, rentre à la maison, il faut préparer le souper, ensuite, il faut faire la vaisselle, il y a les devoirs à faire des enfants, le bain, coucher les enfants. Alors, il y a beaucoup de choses à faire et on se rend compte des fois qu'on n'a plus de temps à consacrer, de temps de qualité à consacrer à nos jeunes. Ou est-ce qu'on fait juste s'asseoir avec, puis lire des livres, jouer au Lego, s'amuser, sortir dehors, puis jouer au ballon? Alors, c'est les enfants, eux autres, ont encore besoin de cette attention-là des parents, même si eux n'ont plus le temps pour la fournir. Ils en ont besoin et si on ne leur donne pas, ils vont aller la chercher d'une autre façon. Et l'opposition, les crises, c'est une façon d'aller chercher de l'attention négative. Au moment où notre parent ne s'occupe pas de nous parce qu'il fait la vaisselle, si on lui fait une petite crise, il va s'occuper de nous. Il va interagir puis il va intervenir, notre parent.
Mais par contre, et on va y revenir après cette pause, ça peut ternir la relation entre le parent et l'enfant et on va tenter de voir comment ça peut la ternir et comment tenter de la préserver. Restez pas loin. Paquette qui est de retour. Je vous rappelle, vous écoutez Experts en série sur Canal M. Je discute avec le docteur Benoît Amaringer. Yes, lui qui est neuropsychologue et directeur de la clinique d'évaluation et réadaptation cognitive qu'on connaît aussi sous le nom du CERC.
Exact.
Et puis on va laisser tout de suite votre site internet www.cerc-neuropsy.com parce qu'évidemment, si ce sujet-là vous interpelle, à la fin, vous aurez sûrement encore des questions, des interrogations. Donc, il y a des textes rédigés par vous, si je ne m'abuse. Hein,
oui, tout à fait. Vous allez trouver ça sur notre site Internet. Vous allez en trouver aussi sur le site de l'Association québécoise des neuropsychologues, donc AQNP.ca. Puis vous allez pouvoir vous informer là, sur ce sujet.
Parce que, oui, c'est un souci qui est assez complexe, qui peut affecter tout l'environnement familial. Ça touche de quelle façon? On a parlé un peu des parents. Je m'intéresse aux frères et aux sœurs là, qui gravitent autour. De quelle façon ça peut les toucher?
Ça, c'est intéressant parce que on va avoir un impact là, au niveau de tous les membres de la famille chez un enfant qui s'oppose. Bon, c'est certain que si on a un autre enfant qui est opposant dans la famille ou qui a un déficit d'attention, alors là, ça peut devenir explosif, les deux enfants ensemble. Hein? Et là, les deux s'entretiennent et les deux, ça devient une guerre entre les deux enfants. Parfois, on a plutôt un autre enfant qui est plus calme à la maison. Et là, cet enfant-là peut se faire... ça devient presque parfois de l'intimidation d'un enfant opposant envers l'enfant plus calme à la maison. Alors, peut recevoir des coups, peut se faire... vraiment taquiné, mais de façon méchante, mm-hmm. Par l'enfant opposant. Alors, ça peut affecter l'estime de soi et tout ça. Il y a un enjeu de la fratrie aussi pour entretenir le trouble d'opposition. Je remarque souvent que quand on a un enfant dans la fratrie qui réussit bien, qui a le bon comportement, qui est un petit peu l'enfant modèle, là, bon à l'école, qui écoute les consignes, réussit bien dans les sports ou dans les arts... alors, cet enfant-là se fait constamment féliciter par les parents, les oncles viennent à Noël, puis « Ah, ben on est donc fiers de cet enfant-là ». Et l'autre, le deuxième, qui lui est peut-être un peu moins talent dans ces choses-là, se retrouve jamais aussi bon que l'enfant qui est très, très bon. Mm-hmm. Alors, pour avoir sa place, pour avoir son rôle, pour avoir de l'attention dans la famille, il va plutôt se polariser à l'autre, de l'autre côté, à l'autre extrême, et va prendre le rôle du pas fin, va prendre le rôle du petit opposant, du petit tannant, du petit fatigant. Et puis, en prenant ce rôle-là, tire de l'attention comme ça là, des membres de la famille.
Est-ce que trouble de l'opposition va avec agressivité?
Souvent, parce que les réactions opposantes, une fois que l'enfant là, est à bout de mots dans son argumentation, parce que c'est des enfants qui argumentent beaucoup, là, puis qui négocient, une fois qu'il est à bout de mots, une fois qu'on décide de mettre notre limite, bien, souvent on est rendu à un point où l'enfant explose, puis l'enfant mm-hmm. est agressif, puis l'enfant est colérique. Donc souvent, ça vient
donc
ça.
Autant sur frères et sœurs qu'avec les parents.
Tout à fait.
Comment on peut gérer, bien sûr... Je pense qu'il faut le dire, il peut être très, très bien de consulter si vous avez un doute ou que votre enfant a des comportements problématiques. On peut se tourner vers un psychologue, un neuropsychologue. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes aussi qui peuvent venir en aide?
On peut avoir également les psychiatres qui peuvent s'en occuper dans les cas plus graves, je vous dirais, habituellement. Mais normalement, psychologues, neuropsychologues vont être ceux qui vont pouvoir faire le diagnostic, puis surtout aller chercher les causes en dessous de ça. C'est ce qui est le plus important parce que ça nous dit sur quoi intervenir. Intervenir un petit peu dans le vide sur un trouble d'opposition, si on ne sait pas les causes, ça ne nous aide pas tant que ça. Alors, on va vouloir savoir est-ce qu'il y a parce que des fois, on va avoir des enfants qui sont en réaction émotive, des enfants très anxieux, par exemple, qui sont en situation d'opposition. On va avoir des enfants... Aussi, il faut étudier la fratrie, comme on s'est dit tantôt. Il faut regarder les réactions des parents face à l'opposition de l'enfant, puis voir s'il y a autre chose de concomitant au trouble d'opposition, comme on se disait tantôt, un trouble de l'attention, mm-hmm. un syndrome autre neurobiologique. Alors, il faut aller voir un petit peu tout ça pour cerner la problématique avant d'intervenir.
Est-ce que le trouble de l'opposition, parfois, peut être provoqué par la séparation des parents, un déménagement, quelque chose qui vient changer le quotidien de l'enfant?
Exact. Puis là, on va le corréler à ce moment-là avec ce changement-là. L'enfant qui vit quelque chose qui le perturbe émotivement est beaucoup plus à risque d'être en situation d'agressivité mm-hmm. par la suite, d'opposition, de colère. Alors, on peut penser à une séparation, on peut penser à de la maltraitance aussi à la maison, on peut penser à être témoin chez l'enfant de comportements agressifs des parents, ça pourrait être des choses comme ça. Ça peut être aussi des choses plus banales, comme vous disiez, un déménagement, un changement d'école.
Le stress des parents.
Le stress des parents qui peut être communiqué à l'enfant, tout à fait. Ça peut être un enfant qui se fait intimider à l'école, qui vit du stress à l'école également et qui là, se retrouve en opposition parce qu'il fait ressortir ça là, à la maison.
Oui. On le disait, préférable de consulter, par contre, au quotidien, pour arriver un petit peu plus à gérer cette vie de tous les jours avec un enfant opposant. Il paraît que ça se fait. Vous avez des petits trucs.
Oui, tout à fait. Et puis, on essaie de coacher les parents sur ça quand ils nous rencontrent. Oui. Mais si on regarde deux, trois petites choses là à penser, la première chose pour moi, le plus important, c'est de s'assurer comme parent de construire un lien de qualité avec notre jeune. Un lien de qualité, ça veut dire... Trouver là, un 10-20 minutes par soir à consacrer de façon exclusive à notre jeune qui est un petit peu plus opposant, puis passer du temps avec, à jouer avec, pas à l'encadrer, pas à faire les devoirs ou à donner le bain. Là. Je parle d'un 10-20 minutes où est-ce qu'on, comme oui. je disais tantôt, on joue au Lego, on va jouer au ballon dehors, on s'amuse avec, on se chamaille un petit peu, puis on s'amuse avec notre jeune. Ce temps de qualité-là, ben, on en profite comme parents pour renverser l'interaction négative que l'enfant opposant crée à la maison. Hein? Avec un enfant opposant, on est souvent comme parent là, en train de critiquer ce qu'il a fait, lui reprocher, le disputer, mettre des punitions. Mais on veut renverser ça. Là. On veut avoir du temps positif. Puis on veut, pendant cette période-là, on veut être capable de le féliciter sur ce qu'il a fait, lui dire qu'on l'aime, le serrer dans nos bras. Puis ça, on renverse un peu notre interaction mm-hmm. négative.
Je lisais quelque chose, Benoît, de quand mm-hmm. même assez particulier. Et je le dis parce que peut-être que vous pourrez diriger les auditeurs, bon, ceux que ça interpelle. Souvent, l'enfant opposant, quand il est tranquille, il joue avec ses jouets, ça fait 20 minutes qu'on ne l'a pas entendu. On le laisse tranquille parce qu'on veut justement pas provoquer le volcan quand on devrait peut-être aller le féliciter justement parce qu'il est tranquille, parce qu'il joue, parce qu'il est concentré.
C'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tellement vrai parce que chez cet enfant-là, les parents ont presque appris à l'éviter.
Oui.
Appris à éviter.
On a peur, presque.
Oui, on peur de la réaction explosive qui s'en vient. Alors, quand il est tranquille, on essaie d'éviter ça. Et alors, l'enfant apprend que c'est pas payant d'être tranquille.
Ouais,
ce qui est payant en termes d'interaction avec les parents puis d'amour parental, ben, c'est de faire sa crise mm-hmm. Par la suite.
Mm-hmm.
Donc, investir du temps avec notre enfant. Aussi, savoir piger des choses dans ce qui fait de bien pour le féliciter, cet enfant-là, au lieu de toujours le réprimander. Alors, on a un jeune, par exemple, il y a 6 mois où il apprenait à faire son lit, puis c'était un débat, puis tout d'un coup, depuis 6 mois, il fait bien son lit, fait qu'on a arrêté de valoriser ça. Mais pourquoi pas un bon matin dire « Hey, ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, là, mais tu fais donc ben bien ton lit. Je suis donc fier de toi. T'es donc rendu un grand garçon. Je t'en ai pas parlé, mais tous les jours, je suis fier de toi parce que tu fais ton lit. » Alors, repiger dans des choses que notre jeune fait de bien puis qu'on laisse passer pour aller féliciter puis encourager notre jeune puis trouver des moyens d'établir un lien qui est positif.
Et même si ce n'est pas un exploit sportif
exact.
Ou artistique
exact.
Ou scolaire, comme
ben
on disait.
Oui, oui, on peut féliciter l'enfant qui, d'un coup, fait des belles boucles avec ses souliers puis ça fait 6 mois qu'il fait bien puis on refélicite ça. On repige dans ces choses-là, puis ça, c'est très valorisant pour le jeune. Ce qu'on va vouloir aussi, là, pour aider, pour diminuer le trouble d'opposition, ça va être beaucoup de couper l'argumentation avec un jeune comme ça. L'argumentation, c'est un petit peu le moteur de l'opposition. Puis c'est un réflexe parental aussi. Au moment où est-ce que l'enfant, on lui demande quelque chose, il nous dit non, le réflexe, c'est de lui expliquer pourquoi, notre demande. L'enfant, lui, son réflexe, c'est d'argumenter notre pourquoi. Et là, on part dans des boucles, puis des boucles, puis des boucles d'opposition et d'argumentation et de justification avec notre jeune. Puis ce qui n'arrivera pas à ce moment-là, là, c'est qu'il n'arrivera pas un moment où notre jeune va dire « Ah, ben papa, maman, j'avais pas pensé à ça. T'as donc raison. Je vais aller les ranger mes jouets.
Mm-hmm. »
C'est pas ça qui va arriver. On arrivera plutôt à une escalade qui va faire exploser notre jeune. Fait on veut plutôt couper l'argumentation puis arriver rapidement à mettre une conséquence qui peut être un retrait simplement de la situation problématique à ce moment-là. Par exemple, une chaise de retrait, un petit coin retrait à la maison, assis dans les marches d'escalier, quelque chose comme ça. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on coupe le lien puis on évite l'escalade de colère. Ça vaut la peine, je dirais, pour bien le faire, de rencontrer là, un psychologue ou un neuropsychologue pour coacher un petit peu cette approche-là. Mais quand on le fait bien comme parent, on évite nous-mêmes d'escalader notre colère à nous face à l'enfant. On reste toujours en contrôle de nos réactions. Puis ça évite de faire escalader lui-même l'enfant dans sa colère. Puis on reste dans une relation qui est plus harmonieuse.
Ce qui m'interpelle aussi et qui me touche, c'est ce que vivent ces parents-là quand ils sont à l'extérieur. Donc le regard des autres, parce que c'est toujours plus facile quand on n'est pas dans la situation de dire « ben voyons ». Elle n'a donc même pas d'autorité. Ben voyons, il est donc bien difficile, cet enfant-là. Hey, moi, je ferais ça de même, puis ça irait par là. Bon, on les entend, ça, puis on veut bien faire. On est à l'épicerie, on est au centre d'achat. L'enfant fait une crise pour un jouet, des bonbons. On donnait cet exemple-là tantôt. Comment on peut agir, là, en public, comme ça?
Ben, quand on a un enfant qui est opposant, on le sait que la crise peut s'en venir quand on sort. Hein? C'est pas une surprise tant que ça, quand la crise survient. Une des choses à faire, en fait, avant d'y aller, c'est de prévenir. Avant de partir. On s'en va à l'épicerie ou on s'en va au centre d'achat, on sait qu'on va passer dans les chocolats ou dans les bonbons puis dans les jouets. On prévient l'enfant. On prévient, là, on s'en va à l'épicerie. tu sais, on va passer dans les chocolats, tu sais qu'on n'en achète pas, je veux pas de crise aujourd'hui quand on va être à l'épicerie. Si tu n'en fais pas, et là, on peut avoir une récompense qui va suivre ça. Et les meilleures récompenses sont du temps de qualité avec les parents. Alors, si tu n'en fais pas en revenant, ben on s'en va jouer dehors ensemble un 10-15 minutes, je vais être fier de toi. Donc, on a prévenu la crise à ce moment-là. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est un peu de négocier avec un faux choix la situation. Du genre, on s'en va faire l'épicerie. Il y a plein de choses que tu aimes à l'épicerie. Hein? Il y a plein de chocolats et de choses comme ça. Regarde ce qu'on va faire. Je te laisse choisir deux choses aujourd'hui dans toute notre épicerie que tu as envie de prendre, puis c'est toi qui les choisis. Alors là, au fur et à mesure qu'on fait l'épicerie, qu'on se promène, notre jeune peut mettre deux choses dans le panier qu'il aime. Quand on arrive à une troisième, on dit hey, « c'est vrai que ça a l'air bon, ça aussi. » Laquelle on va enlever pour pouvoir mettre celle-ci? Fait qu'on laisse choisir l'enfant. On évite dans ces situations-là la crise. L'enfant a une partie de ce qu'il veut. Ça a été négocié positivement au départ, pas par une crise. Hein? Il n'a pas obtenu par la crise ce qu'il veut. Et c'est ce qui est important. Et si tout de même, la crise survient dans ces endroits-là. Je dirais que ça reste toujours, à ce moment-là, lorsqu'une crise survient, de couper le déclencheur puis de s'éloigner de là. Alors, à ce moment-là, je prendrais l'enfant, je sortirais de l'épicerie, j'irais un petit peu à part. Je le prends dans mes bras de façon aimante comme parent, mais stricte.
Ferme,
ouais. Exactement. Aimante, mais ferme. Je l'amène à l'extérieur, dans un endroit plus tranquille. Je l'assois et je me distance un petit peu de lui. Je n'interagis pas avec lui parce que l'interaction augmente l'argumentation et tout ça. J'attends que le moment se calme. Alors, je m'éloigne juste un petit peu. C'est un enfant, je veux le garder à vue là, près
Bien
de moi.
Sûr.
Je l'amène dans un endroit où il peut avoir une réaction de crise, où il y a peut-être moins de monde qui passe autour. Et puis, au bout d'un, deux, trois minutes, je retourne le voir. Je le regarde, je lui dis « Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'es calmé? On va retourner à l'intérieur. » C'est surtout couper le lien avec le déclencheur qu'on va vouloir faire à ce moment-là.
Est-ce que ça se résorbe à un moment donné?
On le souhaite. Si c'est bien géré, si c'est bien coaché, ça va disparaître avec les années. Le lien avec les parents aussi se consolide et puis à un moment donné, ça devrait s'atténuer chez les enfants.
Benoît Meringuer, merci beaucoup.
Ben, c'est
Ça
un
a
plaisir.
Été rapide. Il va falloir que vous reveniez. Alors, Jean-Sébastien Laliberté qui a été tranquille pour cette demi-heure, c'était Marianne Paquette. Si vous avez envie d'entrer en communication avec nous, mpaquette@canalm.ca ou le 1-800-361-0635 poste 220. On est sur Facebook et Twitter, @expertserie. C'est toujours un plaisir de vous lire. On mettra également le site du CERC, donc de la Clinique d'évaluation en réadaptation cognitive et les autres propositions. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bye-bye.